Pankhurst, parlant cette fois-ci d'une seule voix, exerce une pression constante sur les députés en profitant de l'argument de l'effort de guerre. Donc elles disent qu'elles aussi, les femmes, elles ont beaucoup contribué à cet effort de guerre et elles ont aussi beaucoup perdu. Alors le gouvernement, qui pensait être un peu tranquille du côté des femmes et des revendications des suffragistes et des suffragettes, il ne peut plus trop se dérober. Voilà, ils sont un peu coincés, il faut que le pays redémarre, enfin bon. Et donc, ils ne peuvent pas refuser aux femmes ce qu'ils accordent aux hommes pour le même motif. En 1918, le Parlement vote la Representation of the People Act. Bon, c'est dit sans accent, mais vous avez compris comme ça. Tous les hommes de plus de 21 ans et les femmes, il y a quand même quelques restrictions, de plus de 31 ans.
Quand même, hein, faut.
Mais pas n'importe quelle, celles qui sont mariées à un homme inscrit sur les listes électorales et propriétaires. Donc ces femmes-là, de plus de 31 ans, mariées à un homme inscrit, etc., elles auront le droit de vote. Donc du coup, ça signifie qu'il y a quand même 2 millions d'hommes supplémentaires et 6 millions de femmes qui vont se mettre à voter, qui ne votaient pas auparavant. C'est quand même un gros changement, voilà, même si ce n'est pas parfait. Après 50 ans de combat pour changer la perception des femmes dans l'opinion, c'est un succès quand même très important. Et en juillet 1928, une nouvelle loi va instaurer la parfaite égalité du droit de vote entre les hommes et les femmes. Tout individu de plus de 21 ans peut à présent voter. La lutte aura été tout de même difficile et rude. Le Royaume-Uni est le 8e pays à octroyer le droit de vote aux femmes. À cette époque-là, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote en France.
Eh ben non. Hein.
Bon.
Voilà, c'était Suffragette de Nina Gordon. Alors, la diversité voilà, du mouvement au Royaume-Uni est importante, hein, parce que le mouvement pour le droit de vote des femmes n'était pas monolithique et était parcouru par diverses tendances. La plus évidente distingue les suffragettes de la Women's Social and Political Union, qui prône la violence comme moyen d'action afin d'attirer l'attention des médias et le soutien du public en mettant en avant le sacrifice de ces militantes. Et la plupart des autres organisations, les suffragistes qui sont légalistes. Alors la Women's Freedom League rejoint l'analyse politique radicale de l'autre association, mais s'en éloigne en utilisant des méthodes d'action non violentes, comme par exemple le refus de payer l'impôt, les militantes qui s'enchaînent d'elles-mêmes aux grilles du Parlement, etc. Alors fondée en 1907, commence cette Women Freedom League est d'ailleurs une scission avec l'autre association et 77 militantes le quittant pour protester contre l'autoritarisme de la famille Pankhurst dans la direction du mouvement.
Alors bon, qu'on parle de suffragettes ou de suffragistes, la cause du droit de vote réunissait des femmes aux visions politiques et sociétales divergentes. Entre les bourgeoises conservatrices et libérales, les militantes socialistes, enfin, les suffragistes se retrouvent sur un combat commun, mais finalement sont divisés en de multiples associations structurées autour de bases religieuses, politiques, professionnelles ou même géographiques. Ainsi, l'Actresses Franchise League, qui regroupe des actrices, la Jewish League for Women's Suffrage, des membres de la communauté juive ou encore la Taymouth Suffrage Society, qui accueille des femmes de la petite station balnéaire de Taymouth. Bon, cependant, la plupart des associations suffragistes étaient finalement affiliées à l'organisation légale National Union of Women's Suffrage Societies, la LUWSS, tandis que les groupes de suffragettes, donc WSPU et WFL, maillaient le pays de sections qui en étaient directement dépendantes. Alors, c'était quand même très un peu découpé, un peu.
Oui, ben c'était très varié. Il y avait beaucoup de groupes, quoi. Alors, dans les années 1900, les associations ne sont en général pas affiliées à des partis politiques, hein, et cette distance s'explique par le souvenir des premières militantes qui n'ont pas oublié le dédain que leurs revendications rencontraient dans les instances partisanes. Par ailleurs, ne pas afficher de couleur politique permettait de transcender, par la question du droit de vote, les opinions politiques généralement opposées. Alors, l'apolitisme affiché des associations n'empêchait toutefois pas de les cataloguer comme plutôt conservatrices ou plutôt libérales ou socialiste. Comme le note l'historienne Myriam Boussaba Bravard, tout un chacun pouvait trouver chaussure à son pied dans le mouvement suffragiste. La question du droit de vote produit par ailleurs une nouvelle idéologie qui unit des militantes pourtant diverses, car leur campagne mettait en application une théorie de l'activisme à l'usage des femmes de toute classe, de tous âges et de toute appartenance politique qui jusqu'alors n'avait pas été systématiquement politisée. Notamment à l'apogée du mouvement en 1910, alors que la presse n'est désormais plus majoritairement hostile à l'égard des suffragistes.
Ouais. Pourtant, la règle extra-partisane finit par se briser. Ainsi, la Conservative and Unionist Women's Franchise Association, fondée en 1908, est liée au Parti conservateur et ne défend pas le suffrage universel, mais simplement un suffrage censitaire qui serait étendu aux femmes. En 1912, lorsque Millicent Fawcett du NUWSS se rapproche du Parti travailliste, sa décision provoque des critiques des suffragistes libérales comme Eleanor Redbone qui quitte l'association. Avec l'obtention du droit de vote et d'éligibilité en 1918, un certain nombre de militantes s'engageront dans des partis politiques. Certaines se présentant sous une bannière partisane aux élections législatives qui se tiennent la même année, mettant fin à l'unanimisme de façade du mouvement pour le droit de vote des femmes. En fait, il y avait effectivement beaucoup de tendances différentes et des choses quelquefois incompatibles quand même.
Bah oui, oui, oui. Bon, alors il y a beaucoup de termes anglais et on est assez nul en anglais.
Voilà.
Alors vous nous excuserez pour notre accent affreux. Donc, eh bien, j'ai quand même trouvé une chanson française, sur les suffragettes. Et là, ça s'appelle Suffragette bébé d'Indochine.
Actif. Une rediff, quoi.
la terre et les pluies.
Alors les suffragettes, eh bien, elles ont eu parfois recours à des méthodes quand même un peu assimilées par certains historiens à du terrorisme. Alors si certains réfutent ce terme et lui préfèrent le qualificatif de vandalisme, arguant du fait que les propriétés et bâtiments que les suffragettes ont détruits ou incendiés étaient vides, il y en eut quand même 250 en 6 mois, hein, en 1913. L'historien Simon Webb rappelle que Mary Light et d'autres suffragettes ont mis le feu à un théâtre avant d'y faire exploser une bombe alors que des gens étaient à l'intérieur. Elles ne furent cependant pas accusées de terrorisme car à l'époque, ce crime n'existait pas. Et elles furent poursuivies pour avoir causé une explosion de nature à mettre en danger la vie d'autrui. Alors, les suffragettes britanniques ont surtout eu recours aux attaques à la bombe à partir de 1912, en ciblant notamment des lieux touristiques et des églises, dont la Tour de Londres, l'abbaye de Westminster, la cathédrale Saint-Paul, la Banque d'Angleterre, causant notamment des dommages à des pièces exposées au British Museum et à la National Gallery. La bombe ayant soufflé les vitraux de la cathédrale de Lisburn en 1914, attribuée aux suffragettes, représente à la fois la première explosion de bombe au XXe siècle en Irlande, précédant celle de l'IRA, et la dernière bombe posée par des suffragettes. Elle explosa le jour de l'entrée en guerre du Royaume-Uni, et après quoi la plupart des suffragettes stoppèrent leur activité et s'impliquèrent dans l'effort de guerre. L'historienne Fern Riddle a étudié les activités des suffragettes et a établi que bien qu'elles aient principalement ciblé des biens matériels pour attirer l'attention sur leur cause, certaines actions violentes ont eu lieu, notamment des attaques incendiaires. Et l'utilisation de courriers contenant des substances dangereuses, comme le phosphore, reste controversée et n'est pas documentée comme une pratique courante ou systématique. Riddle affirme qu'en 1913, les suffragettes menaient une campagne militante radicale qui, selon les critères modernes, pourrait être décrite quand même comme une forme de terrorisme, bien que les suffragettes aient évité de blesser ou de tuer des personnes. Elle cite également des documents d'époque où la police et les médias qualifiaient leurs actions de règne de terreur ou de terrorisme suffragette, reflétant ainsi les perceptions contemporaines de leurs actions. Fern Riddle suggère ainsi que dans les années suivant leur campagne, certaines suffragettes auraient tenté de minimiser ou d'effacer dans leur récit les aspects les plus violents de leur lutte dans des ouvrages mémoriels, quoi, en atténuant un peu les actions qu'elles avaient pu faire. En France, les femmes, elles, n'ont eu le droit de vote qu'en 1944, soit 26 ans plus tard que les Anglaises, les Irlandaises ou les Canadiennes, les Polonaises, les Hongroises, les Arméniennes, etc.
Ouais, alors en France, il y avait eu deux fois un vote en faveur, bien avant, hein, 44, en faveur du droit de vote des femmes, mais c'est le Sénat qui s'était opposé à chaque fois. Il y avait des arguments sexistes. Après la Première Guerre mondiale, c'était aussi l'idée que bah, il n'y avait plus beaucoup de bonhommes et qu'il y aurait plus de femmes qui voteraient que d'hommes et elles allaient prendre le pouvoir. Il y avait un truc un peu comme ça.
Donc, pas question que les femmes prennent le pouvoir.
Au-delà de je ne sais plus qui a dit que la main des femmes n'était pas faite pour mettre un bulletin dans une urne, mais pour être baisée. La main, hein. Enfin, c'était joli quand même, ça méritait d'être cité. Et il y avait aussi le fait que le Sénat, comme la France était quand même assez catholique, et le Sénat craignait que le vote des femmes, les femmes étant dans l'ensemble plus religieuses que les hommes, craignait que du coup ce soit que le clergé ne s'introduise un petit peu dans le pouvoir. Donc c'était un des arguments aussi, manifestement. Bon, voilà, un petit peu de...
Ok, ben là, je vous ai trouvé une petite archive de l'INA, là, donc un petit documentaire. C'est ce jour où les femmes ont pu voter pour la première fois. Alors, vous allez voir, il y a des choses intéressantes.
Vous pensez qu'une femme n'a pas le droit, justement, de se mêler à la politique un
petit peu ? En principe, elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari. Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a ses affaires à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer...
J'ai toujours voté, même sur un lit d'hôpital. Je me souviens de ma mère qui mettait le bulletin de vote que mon père lui donnait dans l'enveloppe. Donc j'ai dit ça, jamais.
Une femme qui ne veut pas voter, mais je trouve que la femme a le droit de voter comme l'homme, et de se défendre comme l'homme.
Vous votez, vous, madame ?
Tout le temps. Je n'ai jamais eu, depuis que le vote existe, pour les femmes, je n'ai jamais manqué une fois.
J'ai l'impression de ne plus voter depuis les dernières élections présidentielles, en fait. Je suis dégoûtée d'aller voter.
Et je pense que c'est une bonne chose parce que elles jouent ce scrutin pour les femmes joue un grand rôle pour leur émancipation. Elles doivent participer à la vie politique de la nation. Seulement, ça supposerait qu'elles acquièrent une formation politique.
Aujourd'hui, on voit même en politique, il y a de plus en plus de femmes qui sont représentées. On a eu Elisabeth Borne qui était Premier ministre, c'était la deuxième, mais ça montre qu'il y a quand même un changement et une évolution.
Le suffrage universel est en France un droit inaliénable pour les femmes. Mais il a fallu plus d'un siècle de lutte acharnée pour qu'il leur soit accordé. Revenons sur ces dates clés qui ont précédé l'obtention du droit de vote des femmes. 1789, les premières revendications féministes qui émergent à la Révolution française sont rapidement muselées. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 21 août 1789, en est la parfaite illustration. Ce texte fondateur proclame des principes universels, mais les femmes restent explicitement exclues de la citoyenneté et de la participation politique. En signe de contestation, Olympe de Gouges, figure majeure du féminisme des Lumières, rédige en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune.
Des paroles prémonitoires puisqu'elle sera guillotinée pour ses idées en 1793. En 1848, le suffrage universel masculin est proclamé. Pour la première fois, tous les hommes âgés de 21 ans et plus, sans condition de richesse, peuvent voter. Les femmes, elles, sont une nouvelle fois écartées. Des militantes féministes, inspirées par les idéaux révolutionnaires, réclament l'égalité politique. Parmi elles, Hubertine Auclert, première suffragette française. Elle popularise le terme féminisme et réclame le droit de vote pour les femmes, mais aussi le droit d'être élue. À partir de 1919 et jusqu'en 1944, des propositions de loi accordant le droit de vote aux femmes sont présentées à l'Assemblée. À 6 reprises, elles sont bloquées par le Sénat. Selon les sénateurs, la femme serait trop influencée par l'Église, ce qui mettrait en péril la République laïque. La place des femmes est au foyer, auprès de son mari et de ses enfants. Dans les années 1930, les mouvements féministes privilégient des actions plus radicales. La journaliste et militante Louise Weiss organise des manifestations spectaculaires. Elle se présente symboliquement aux élections législatives alors que les femmes n'ont pas encore le droit de voter ni d'être élues. En 1936, avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire dirigé par Léon Blum, un événement historique se produit. 3 femmes, Suzanne Lacor, Cécile Brunswick et Irène Joliot-Curie, accèdent à des postes ministériels. En 1942, le général de Gaulle organise la résistance depuis l'étranger. Il le promet, une fois la France libérée, les femmes obtiendront enfin le droit de vote. Au cours des 2 guerres mondiales, en l'absence des hommes partis au front, les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient occuper des postes traditionnellement masculins, dans le domaine de l'industrie par exemple, de l'agriculture ou encore de la santé. En reconnaissance pour tous les services rendus pendant la guerre, le général de Gaulle accorde officiellement le droit de vote aux femmes le 21 avril 1944.
Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette, la bonne religieuse, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La 4e République, a dit le général de Gaulle, sera une grande république.
Le 29 avril 1945 marque une double date symbolique. Il s'agit des premières élections organisées en France depuis la Libération, ainsi que des premières élections où les femmes ont enfin pu voter.
Et alors ce premier vote, en fait, les gens ont été très surpris de voir à quel point les femmes sont allées voter. Parce que beaucoup disaient, de toute façon, elles n'iront pas. Voilà. Alors, que dire d'autre ? Bah, on peut parler de l'Afrique du Sud. Seules les femmes blanches peuvent voter dès 1930. Les femmes métisses attendront 1984 et les femmes noires 1994.
Voilà. Donc, c'est
quand même un autre concept aussi. Ça. Les États-Unis, sur le plan fédéral, adoptent le vote des femmes en 1919. L'État de Washington fut donc le premier à donner le droit de vote aux femmes blanches en 1910. Mais il faut attendre 1965 pour que les femmes afro-américaines et des autres minorités raciales aient le droit de vote.
Donc quand même 65, voilà. C'est pas si loin, quoi.
C'est pas très... Oui, enfin, un petit peu, mais pas tant que ça, quand même.
Ouais.
Donc là, encore des critères autres que le sexe, quoi. Mais le sexe plus la couleur de peau, l'origine... Bon, enfin bref. Donc voilà, et ben maintenant les femmes peuvent aller voter. Après, c'est un droit, mais chacun y va.
Donc j'espère que vous aurez été nombreuses à aller voter pour,
bien sûr.
Pour toutes celles qui n'y vont pas, ou tous ceux d'ailleurs qui n'y vont pas, parce que les hommes n'emploient pas non plus forcément leur droit de vote. Bon, enfin, il y a des femmes qui sont battues pour ça, alors voilà. Donc voilà, bon bah écoute, on espère que cette émission vous aura intéressé. Et donc la prochaine fois, on va parler de personnalités un peu particulières, hein, puisqu'on va vous parler d'une danseuse aveugle, d'une actrice muette et.
Sourde profonde en tout cas.
Sourde. Voilà, je mélange tout. Ça ne va pas du tout. Bon. Donc, eh bien, on espère vous retrouver bientôt dans notre prochaine émission.
Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi ? Un jour, peut-être, ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elles,
ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatales,
tatouées,
douces,
savantes,
de lettres,
faciles,
fidèles,
bonnes femmes,
au foyer,
modernes,
citoyennes,
de caractère,
combattantes.
Écoutez-nous,
nous vous parlerons d'elles, de vous, et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.